Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Il sera livré aux païens, tourné en dérision, outragé, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, on le mettra à mort et le troisième jour, il ressuscitera. Chers fidèles, l'évangile de ce dimanche de la quinquagésime est déjà une introduction au temps du carême. Dans quelques jours, en effet, nous allons entrer dans cette période de l'année liturgique qui doit nous conduire au calvaire et au triomphe de Pâques. Alors l'Église aujourd'hui nous fait entendre notre Seigneur annoncer à ses disciples le grand sacrifice qu'il s'apprête à offrir pour réparer la gloire de son Père offensé par nos péchés et permettre ainsi le salut des âmes de bonne volonté. C'est en fait un quadruple sacrifice que notre Seigneur a offert sur la croix. Sacrifice d'adoration tout d'abord. Sur la croix, notre Seigneur d'abord adorait son Père. Adorer Dieu pour une créature, c'est le reconnaître comme le Créateur, Maître de la vie et de la mort, dont nous dépendons en toutes choses. Sur la croix, notre Seigneur, qui récapitulait toute la création dans sa nature humaine, offrait à son Père une adoration infiniment parfaite. Non seulement parce que sa nature humaine était unie à la seconde personne divine, mais aussi parce qu'il s'offrait entièrement, par amour, dans une dépendance totale à la volonté de son Père qui voulait ce sacrifice pour réparer sa gloire. Sacrifice d'adoration, sacrifice d'action de grâce aussi. Sur la croix, notre Seigneur remerciait. Cela peut nous étonner à première vue. Oui, notre Seigneur remerciait son Père pour toutes les merveilles de la création et surtout pour les magnificences de sa miséricorde qu'il a déployée depuis le péché d'Adam pour sauver les hommes et qui culminait par ce sacrifice de la croix où l'innocent réparait pour les coupables que nous sommes. Sacrifice d'adoration, sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de notre Seigneur fut aussi un sacrifice de réparation de nos péchés, un sacrifice qui allait nous rendre Dieu de nouveau propice, d'où le nom de sacrifice propitiatoire. Sur la croix, notre Seigneur a réparé surabondamment toute l'offense causé à Dieu par les péchés de l'humanité. Cela non seulement par ses souffrances, mais surtout par la charité avec laquelle il les offrait à son Père. Plus que les clous, c'est l'amour qui attachait notre Seigneur à la croix, dit sainte Catherine de Sienne. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, en offrant ainsi sa vie pour nous par obéissance à son Père, notre Seigneur a fait un acte d'amour qui plaisait plus à Dieu que ne lui déplaisent tous les péchés des hommes réunis. Et c'est pourquoi il les a réparés. Enfin, sur la croix, notre Seigneur a offert à son Père un sacrifice de supplication pour le salut des hommes. Cela est apparu spécialement lorsqu'il a dit « J'ai soif ». Et ce n'est pas tant d'une boisson dont il avait soif, mais des âmes. C'est pour les sauver qu'il offrait toutes ses souffrances, pour que tous les péchés des hommes soient réparés, pour qu'aucun homme ne puisse dire « J'ai trop péché, je ne peux plus être pardonné ». C'est pour cela qu'il est entré dans sa passion et qu'il s'est donné à la souffrance jusqu'au bout. Et alors, sur sa croix, il a supplié son Père d'agréer son sacrifice, afin qu'il puisse obtenir le salut de tous ceux qui le lui demanderaient, de tous ceux qui se tourneraient vers lui pour lui demander pardon de leurs péchés, quels qu'ils soient. Le sacrifice de la croix, dit le catéchisme du Concile de Trente, fut infiniment agréable à Dieu. À peine Jésus-Christ l'eut-il offert, que la colère et l'indignation de Dieu pour les péchés des hommes furent entièrement apaisées. Et dans son plan d'amour infini, par une pédagogie admirable, notre Seigneur voulut que son sacrifice ne fût pas seulement une réalité du passé, mais qu'il soit présent au milieu de nous, et c'est la Sainte Messe. Notre Seigneur ressuscité ne meurt plus. Son corps et son sang, glorieux pour toujours, ne seront plus jamais séparés. Mais de par une disposition divine, à la messe, la consécration séparée de ce corps et de ce sang signifie leur séparation sur la croix et renouvelle ainsi de manière non sanglante le sacrifice du calvaire et nous applique les mérites obtenus par ce sacrifice il y a 2000 ans, les distribue au cours des âges par la célébration des messes selon les besoins des époques et de nos âmes. Aller à la messe, c'est donc monter au calvaire. Et en même temps qu'elle renouvelle le sacrifice de la croix, la messe réalise le sacrement de l'Eucharistie, qui nous rend participants à la divine victime, Jésus crucifié. Monseigneur Lefèvre disait « Communier, c'est être crucifié avec Jésus-Christ ». Communier, c'est nous unir par amour à Jésus-Christ s'offrant en sacrifice à son Père pour la réparation de nos péchés et pour la réparation des péchés de notre temps. Nous devons aller à la messe pour unir notre vie, nos peines et nos joies, les sacrifices de nos devoirs quotidiens et ceux de nos épreuves physiques ou morales, offrir tout cela à Jésus pour ne faire qu'un avec son offrande et entrer ainsi dans son grand plan de salut qui se terminera dans la gloire. C'est là, à la messe, par la messe, que notre vie prend toute sa signification et sa valeur. Bien sûr, ces effets de la messe dépendent beaucoup de nos dispositions. Il y a ici un certain nombre d'efforts à faire pour recevoir davantage de fruits du sacrifice de l'autel. Comme par exemple avoir lu les textes à l'avance, au moins l'épître, l'évangile et l'oraison du jour, ce n'est pas long. Arriver bien à l'heure. Faire l'effort aussi d'avoir une tenue vestimentaire en accord avec le caractère sacré du lieu où nous nous rendons et de l'action à laquelle nous allons participer. Et cela concerne aussi les messieurs et les jeunes gens. Venir en jeans et en basket, par exemple, à la messe, c'est quelque chose de tout à fait irrespectueux, c'est même de la désinvolture. S'unir aux prières du prêtre en les suivant dans son missel, cela peut aider beaucoup, même si ce n'est pas absolument obligatoire, l'essentiel étant de s'unir au sacrifice de notre Seigneur, ce que l'on peut faire sans lire. Enfin, ne pas quitter l'église dès que le prêtre est parti, mais prendre un moment d'action de grâce après la messe, surtout si nous avons communié, pour laisser à notre Seigneur qui est en nous le temps de nous communiquer ses grâces, de nous transformer, de nous diviniser. Est-ce que nous n'en avons pas besoin ? Évidemment, tout ce que nous avons dit s'entend de la messe traditionnelle, non pas de la messe telle qu'elle a été transformée par le pape Paul VI après le concile pour se rapprocher des protestants. Le cardinal Ottaviani, qui était alors secrétaire du Saint-Office, et le cardinal Bacci ont pu alors écrire ce jugement qu'on pourrait apprendre par cœur car il suffit à rejeter cette messe. Je cite « Le nouvel Ordo Missae s'éloigne de manière impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie du sacrifice de la messe telle qu'elle a été définie au Concile de Trente. De manière impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail. Il ne reste plus rien. Ils écrirent cela pour préfacer une étude intitulée « Bref examen critique du nouvel Ordo Missae », rédigée alors par plusieurs théologiens sous la présidence de Mgr Lefebvre. Nous la vendons ici. Elle fait partie des ouvrages à lire pour affermir nos convictions. C'est une petite étude très claire, extraordinaire. Dans le nouvel Ordo Missae, en effet, tous les textes affirmant de manière très claire que la messe est essentiellement un sacrifice pour la rémission de nos péchés, tous ces textes ont été supprimés pour s'accorder avec les protestants qui refusent d'y croire. Cela ne veut pas dire que la nouvelle messe est invalide en soi, mais si la croix n'est plus signifiée à la messe, quel secours apportera-t-elle aux fidèles pour porter les croix de leur vie? Quelle intention auront après plusieurs années les prêtres qui célèbrent ces messes? Le nombre de messes invalides ne pourra qu'augmenter. Alors, constatant que la nouvelle messe ne nourrissait pas leur piété et mettait leur foi en danger, des prêtres, des fidèles, commencèrent à s'organiser pour que la messe traditionnelle continue. C'est toute l'histoire de la tradition qui n'a pu vraiment se développer que parce qu'un évêque courageux s'est levé, Mgr Lefebvre. La Rome conciliaire a réalisé qu'elle ne pourrait plus arrêter le mouvement qui ne cessait de grandir. Alors elle a commencé à autoriser la célébration et l'assistance à la messe traditionnelle à certaines conditions. Ce furent l'indulte de 1984 de Jean-Paul II, le motu proprio de Benoît XVI en 2007 et les concessions accordées aux communautés se séparant de Mgr Lefebvre. Les conditions, en fait, c'était de se contenter de la messe traditionnelle sans dire que la nouvelle messe était mauvaise, en acceptant même la nouvelle messe comme le rite ordinaire de l'Église universelle, et sans remettre non plus le concile en question. Cependant, comme le dit Mgr Lefebvre, je le cite, « Voilà ce qui fait notre opposition à la Rome actuelle, et c'est pourquoi l'on ne peut pas s'entendre. Ce n'est pas d'abord la question de la messe, car la messe est justement une des conséquences du fait qu'on a voulu se rapprocher du protestantisme et donc transformer le culte, les sacrements, le catéchisme, etc. » La vraie opposition fondamentale est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Opportet illum regnare, nous dit saint Paul, notre Seigneur est venu pour régner. Eux disent non, et nous nous disons oui avec tous les papes. Nous nous heurtons sur un point de la foi catholique. Fin de citation. Or, la foi est nécessaire au salut. Alors peut-on sans rien dire laissez notre Seigneur être mis sur le même pied que les fondateurs des autres religions, comme le fait l'œcuménisme actuel. Peut-on, sans rien dire, accepter la déclaration sur la liberté religieuse du Concile Vatican II, exigeant des États qu'ils donnent un droit égal à toutes les religions, ce qui revient à empêcher notre Seigneur d'y régner, avec toute l'immoralité que cela entraîne et qui détruit nos pays, facilitant considérablement le plan maçonnique de domination du monde. On ne peut pas accepter une autorisation de célébrer la messe traditionnelle qui, dans la pratique, oblige au silence sur un concile et sur une nouvelle messe qui détruisent la foi, détruisent l'Église et mettent en grave danger le salut des âmes. Bien sûr, il ne s'agit pas de juger de l'intention et de la bonne volonté des prêtres qui célèbrent ces messes et de ceux qui y assistent. Mais Mgr Lefebvre déconseillait d'y assister parce qu'il est dangereux, disait-il, d'aller dans des églises où l'on ne met pas en garde contre la nouvelle messe et contre les nouveautés destructrices du concile. C'est qu'il n'y a pas que la messe, il y a aussi les sermons. Un bon pasteur ne peut pas se contenter de donner un bon pâturage aux brebis, il doit aussi les mettre en garde contre les loups. Puisque dans quelques jours, nous entrons dans cette période de l'année qui doit nous conduire à la Semaine Sainte et à Pâques, où l'Église nous fera revivre les grands mystères de la Passion et de la Résurrection de notre Seigneur, nous pourrions demander pendant ce carême la grâce de mieux profiter de nos messes pour qu'elles deviennent vraiment le cœur de notre vie, qu'elles en soient le moment privilégié, même lorsque pour une raison ou pour une autre nous ne pouvons y assister physiquement, ce qui peut arriver ces temps-ci. Mais nous pouvons toujours nous unir en pensée aux messes qui sont célébrées ici ou là et faire une communion spirituelle. Alors demandons au cours de cette messe la grâce de profiter toujours mieux de cette institution extraordinaire de la messe que notre Seigneur a voulu pour notre vie, pour notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.